Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, une nouvelle curiosité. Mais comment est née l'imprimerie ? Grâce à qui lisons-nous les journaux et de bons livres tous les jours ? Bonjour, Jean-Marc Providence.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes concepteur et directeur du musée de l'imprimerie à Malesherbes. Alors, je me suis dit, moi, avec la numérisation galopante avec Internet, on se dit que les imprimeurs doivent beaucoup souffrir en France, non ? On est plutôt sur une...
C'est un effondrement du secteur pour le secteur de la presse, de quel type qu'elle soit, journalière, hebdomadaire ou mensuelle, effectivement, voit ses chiffres baisser tout doucettement. Par contre, sur d'autres secteurs comme l'emballage, on est au contraire dans un secteur qui continue à se développer.
Avec de nouvelles technologies notamment, c'est ça ?
Avec de nouvelles technologies très nombreuses en fonction des types de supports, puisqu'on est capable d'imprimer à peu près sur tous les supports. Mmh. Et on pense presque toujours au papier, au carton, mais beaucoup d'autres, le textile, le PVC et beaucoup d'autres encore.
Avec notamment les imprimantes 3D, c'est ça ?
Alors les imprimantes 3D, c'est encore un autre secteur. Ouais. Aujourd'hui, les développements sont plutôt les développements pour l'armée, pour l'aéronautique, beaucoup plus que pour les supports auxquels on peut être habitué quand on va au supermarché. Mmh.
Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'imprimerie ? Si nous étions à l'école, nous répondrions tous en cœur.
Gutenberg !
Ah, merci mes petits élèves. Mais nous sommes à la curiosité, dommage à leur révélation à venir sur l'imprimerie dans un instant sur RTL.
Thomas Hugues.
Le génie de Gutenberg ne réside pas dans une innovation révolutionnaire.
Sidonie Bonnec.
A-t-il découvert les caractères mobiles ? Non. Les Romains composaient déjà des mots avec des lettres séparées.
Ça imprime pas.
Ça imprime toujours pas.
La curiosité.
Ça imprime pas.
Bidouille les câbles.
Déjà bidouillé. Je rebidouille.
Est un vilain défaut.
C'est quoi ce problème d'imprimante ?
Sur RTL.
Pour changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Sinon, tu risques de te blesser.
Ah, on a tous eu des problèmes d'imprimante. On l'a même un peu tapé, cette imprimante. Ça vous est déjà arrivé, vous aussi, Thomas ?
Bien sûr, mais en revanche, on ne l'a pas chanté. Alors que là, on a quand même trouvé
une chanson. Perle.
Luduc qui chante ça.
Merci d'écouter des bons disques, François Touchard, pour la curiosité. Alors, comment est née cette imprimerie, histoire passionnante dans la curiosité avec notre invité Jean-Marc Providence, concepteur et directeur du musée de l'imprimerie de Malesherbes. On est dans le Loiret, on est à une heure au sud de Paris, comme ça, pour situer sur une carte. Alors, on va commencer avec ce que l'on croit savoir, et qui n'est sans doute pas faux, j'imagine, pas de fake news là-dedans. Gutenberg a inventé l'imprimerie au XVe siècle. Qui est ce bonhomme ?
Ce bonhomme, il est originaire de Mayence sans doute sa spécificité, c'est qu'il a été capable d'allier plusieurs techniques. Alors, évidemment, on pense à la presse. Quand on parle d'imprimer, on pense à la presse. Mm-hmm. La presse en bois, qui est totalement copiée sur le pressoir vinicole. Et pressoir vinicole, il a deux millénaires avant Jésus-Christ. Celui à vis, un millénaire.
Donc, c'était pas un vigneron, Gutenberg.
Donc, c'était pas un vigneron. Il a été capable de récupérer ce pressoir pour en faire une presse d'imprimerie. Deuxième élément, vous l'avez dit tout à l'heure, les caractères mobiles. Ça, incontestablement, c'est sa grande avancée.
Et, Ils sont en métal, ces caractères mobiles,
essentiellement en plomb. C'est un alliage à base de plomb. Et c'est parce qu'il est orfèvre et qu'il est allé étudier à Strasbourg en tant qu'orfèvre qu'il sera capable de mettre au point ses caractères mobiles. Et ça, c'est la grande invention, mais on va peut-être y revenir.
Donc la presse à bras, on va dire, ou mécanique.
La presse à vis.
À vis, ouais.
Et à bras, absolument.
Les caractères interchangeables en métal. Et puis quoi d'autre ?
Et puis l'encre. Qui était l'encre des moines copistes, qu'il a fallu d'un seul coup rendre un tout petit peu plus efficace dans la pression entre le plateau et la forme imprimante.
Alors Gutenberg trouve cet allemand et trouve toutes ses il invente ses procédés. Qu'est-ce qu'il décide d'imprimer ? Parce que là, le choix est assez vaste quand même.
La question ne se posait même pas à l'époque.
Ah oui ?
Il imprime une Bible.
Ah oui.
La Bible à 42 lignes.
Le plus joli roman.
Le plus joli roman qui soit. Et en tout cas, il prend la succession du travail des moines copistes. Et une très belle anecdote, c'est qu'on a découvert il y a quelques jours qu'il n'y avait pas que des moines copistes, contrairement à ce qu'on croyait, mais aussi des nonnes copistes. En Allemagne, on a trouvé les nonnettes suçaient leurs pinceaux. Et du coup, on a retrouvé dans le tartre des dents
un ADN.
On a retrouvé
extraordinaire, féminin.
Un colorant bleu outre-mer qui prouve que les nonnes étaient aussi des copistes.
Ah, c'est génial. On va pouvoir parler des nonnes copistes grâce à vous. Donc, Gutenberg, allemand, 15e siècle. Inventeur, pas de doute, mais bien avant lui, un autre peuple a imaginé l'imprimerie. les Chinois, on est à quelle époque ?
Alors, les Chinois inventent la xylographie, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ce sont des plaques de bois qui sont gravées. Ouais. On met une feuille et on imprime à partir de cette plaque de bois.
Un peu comme tampon.
Comme un tampon.
D'accord. Donc là, on est au
5e siècle, okay, après Jésus-Christ, et on arrive au 9e siècle, et là, les Coréens, eux, inventent les caractères mobiles. Alors, ils sont souvent en céramique, ils arrivent qu'ils soient également en bois ou avec des alliages métalliques, mais le problème, c'est le nombre des signes en Corée est extrêmement important. Gutenberg, il a une chance folle, il a 26 soldats de plomb, il a 26 caractères de l'alphabet, les Coréens ont des milliers de signes. Donc, évidemment, composer un texte, ça prend beaucoup plus de temps, et surtout, redistribuer encore plus.
Donc, si vous deviez dire là, qui a inventé l'imprimerie, vous direz qui ? Les Coréens ?
On pourrait dire, pour les caractères mobiles, les Coréens, pour la presse, les viticulteurs, viniculteurs, pour l'encre, les moines qui, en enluminant, avaient évidemment diverses encres à leur service.
L'imprimerie, une œuvre collective. Tiens, on va continuer à découvrir ces personnages qui ont développé l'imprimerie, comme ce musicien qui invente, tout à fait par hasard, au XVIIIe siècle, la lithographie. On vous raconte tout ça sur RTL.
RTL.
Si ce n'est pas Gutenberg, alors qui a inventé, alors qui a découvert la machine à imprimer ?
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
Ce que vous entendez à l'instant, Obsession, c'est l'extrait d'un clip, d'une chanson tournée au Japon qui a nécessité la synchronisation de 657 imprimantes.
J'aurais dit 58, moi, mais alors
on
est bon
très
nombre.
Très précis dans cette émission parce qu'on vous raconte l'histoire de l'imprimerie avec Jean-Marc Providence, qui est directeur du musée de l'imprimerie situé à Malesherbes dans le Loiret. Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre musée en quelques mots, des machines forcément impressionnantes pour certaines?
On voit une collection de machines assez unique. Ouais. Machines fin 18e, 19e et 20e. Mm-hmm. Puisqu'on a parlé de Gutenberg, une presse reconstituée d'après les plans de la machine à imprimer, de la presse de Gutenberg, reconstituée telle qu'elle.
On peut les voir fonctionner aussi et les faire fonctionner.
Il y a plein de machines qui fonctionnent et il y a plein d'ateliers surtout. On fabrique du papier, on fait du marbrage, on compose soi-même son texte et on peut du coup l'imprimer. Et le texte qu'on a soi-même écrit et éventuellement calligraphié à la plume d'oie.
Parce que j'ai un joli poème pour Thomas Hugues, je vais venir l'imprimer. Avec plaisir, vous m'accueillez.
Mais c'est pas sûr, Jean-Marc Providence. En général, ça commence gentiment et après je me rends compte qu'il y a une vanne derrière. Bref, parmi ces pièces, il y a la première presse, je crois, totalement métallique, inventée en 1795. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, c'est la presse dite de Stanhope. Stanhope est un Anglais. On est effectivement en 1795. Stanhope est plus un industriel et un financier que véritablement un inventeur, mais il s'associe à un mécanicien qui s'appelle Walker, et c'est Walker qui invente cette presse, et d'un seul coup on bascule dans un autre monde. On avait des presses en bois qui étaient très rudimentaires, il fallait deux coups de barreau pour arriver à imprimer de façon homogène la feuille, et là on va le faire en une seule fois. Presse à un coup, ça sera la révolution de la presse à un coup après la presse à deux coups. Ouais. Et on va passer de 2 pages à 8 pages pour simplifier. Donc la forme imprimante pourra être agrandie et on va imprimer 8 pages en une seule fois. Et il y aura un nombre très impressionnant de presses qui vont être mises sur le marché, mm-hmm, puisque Stanhope refuse de déposer le brevet.
Il aurait justement populariser son
exactement
invention.
Exactement. Et il y a un grand nombre de constructeurs partout toute l'Europe qui vont construire ces presses Stanhope, et elles vont perdurer jusqu'au XXe siècle. Elles seront utilisées dans les petites imprimeries. C'est la presse la plus simple à manier.
On est à la fin du XVIIIe siècle, une fin de siècle très riche, puisque l'année suivante, 1796, un musicien va faire une découverte malgré lui. Qu'est-ce qu'il invente ?
Il invente, alors il n'est pas tout à fait musicien, il est dramaturge, et il est en train d'imprimer des partitions de musique, ouais, et ça prend un temps fou de recopier les partitions de musique. Ouais. Et donc il va inventer, grâce à un phénomène qu'il va découvrir, qui est la répulsion entre la matière grasse et l'eau, et donc en l'occurrence entre une encre grasse et l'eau, il va inventer la possibilité de dessiner, d'écrire sur une pierre, une pierre tendre, lisse, qui est une pierre de Bavière, et qui va permettre de reproduire à l'identique la forme qui est sur cette pierre.
Donc, il invente la lithographie. Bon, c'est pas vraiment par hasard, parce que c'est très compliqué comme procédé.
Litho, c'est la pierre en grec, et graphine, c'est écrire. Et donc, ce procédé, il va avoir un rôle très important, puisque pour la première fois, les artistes vont pouvoir dessiner directement sur la pierre. Donc, tous les grands artistes, vous le savez, se sont essayés à la lithographie. Toulouse-Lautrec est l'un des plus célèbres, mais derrière, Picasso, Chagall, tout le monde a fait de la lithographie, parce que pour la première fois, l'artiste dessine directement. Mmh. Quand on était dans le cadre de la gravure, il fallait un graveur qui soit l'intercesseur entre l'artiste et la surface à imprimer.
Et c'est passionnant, parce qu'on voit que les progrès techniques ont aussi une incidence sur la création, sur l'art.
Et sur l'histoire de l'art.
Et sur l'histoire de l'art. Donc c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'industrie, l'histoire de l'art qu'on trouve dans votre musée de l'imprimerie dans le Loiret. Ça n'a jamais cessé de s'améliorer. On n'a jamais cessé de réinventer l'imprimerie.
Non, je crois qu'on a écrit un petit texte à un moment dans le musée qui dit toujours plus vite, toujours plus grand. C'est vraiment cette histoire de l'imprimerie, c'est toujours plus vite, toujours plus grand.
Alors, dans cette histoire de l'imprimerie, on a encore des gens à vous présenter. On a un abbé tenace, un écrivain qui était meilleur romancier qu'imprimeur, des résistants et une gosse. C'est qui cette gosse? Vous verrez bien, à tout de suite.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Au Moyen-Âge, tous les livres étaient copiés à la main, le plus souvent par des moines. Ils faisaient des dessins très colorés, les enluminures. Mais copier toute une Bible ou un roman à la main, ça prenait beaucoup de temps.
RTL.
Alors, au 15e siècle, l'allemand Johannes Gutenberg a développé l'imprimerie. On met de l'encre sur des lettres de plomb, on les presse sur du papier et on peut imprimer des centaines, des milliers de pages.
La curiosité est un vilain défaut.
Une invention géniale dans l'œil de notre curiosité, l'imprimerie, avec notre invité Jean-Marc Providence, directeur du musée de l'imprimerie de Malesherbes. On a appris qu'il n'y avait pas que des moines copistes, mais aussi des nonnes copistes. Et ça fait plaisir parce que les femmes, évidemment, elles existent dans l'histoire, même si on les fait
gomme,
apparaître.
On les gomme un peu trop souvent.
Que récemment. Mais bon, voilà, il n'est jamais trop tard. Il y a même des écrivains français, et ça, c'est passionnant, qui vont se passionner pour l'imprimerie. Évidemment, c'est le support à leur littérature, mais pas toujours. Ils vont pas rendre ça à bras-le-corps, mais pas toujours avec un grand succès, comme le grand Honoré de Balzac. Pourquoi il s'est accoquiné et entiché d'imprimerie ?
Balzac a eu beaucoup de difficultés à percer, on dirait ça aujourd'hui. Il est un auteur qui n'a aucun succès.
On a du mal à le croire aujourd'hui, c'est un des plus grands auteurs.
Il est quelqu'un qui vit sur un certain pied et qui a besoin de gagner de l'argent. Et donc il pense qu'il y a deux moyens de gagner de l'argent. Sa première tentative, ça sera d'être éditeur. On est en 1825, six mois plus tard. Il se rend compte que finalement ça va être difficile. Il édite des œuvres de Molière, de La Fontaine, et tout ça n'a aucun succès non plus. Il abandonne assez vite, donc sa dette sera minime. Et donc là, sa grande décision, ça va être de devenir en 1826 imprimeur. Et il aura cette formule assez formidable en disant : j'ai oublié l'homme de lettres et je deviens l'homme de lettres de plomb.
Imprimeur ?
Alors, il achète une imprimerie rue Visconti à Paris, 7 machines Stanhope comme on les a vues, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe intégrale. À la fin de sa vie, il n'avait toujours pas fini de payer ses dettes. L'expérience ne durera que 2 ans, et ça sera d'autant plus catastrophique qu'à côté, il aura acheté une fonderie pour fondre ses caractères, et là aussi, un échec complet.
Donc, on avait dit, un écrivain, c'est Balzac, un abbé. Quel abbé s'est entiché d'imprimerie, pour reprendre la formule de Sidonie ?
Alors, ça nous a beaucoup amusé parce que l'abbé en question est un abbé très voisin de Malesherbes, un tout petit village à côté qui s'appelle Puiseaux. L'abbé Migné est dans le Loiret, curé de Puiseaux, et il comprend assez vite que on pourrait éditer des ouvrages religieux beaucoup moins chers que le sont ceux qui sont édités par les grands éditeurs, et il se lance dans l'impression des ouvrages des pères de l'Église. Il va faire une patrologie en 96 volumes, et sa grande habileté, ou sa suprême habileté, ça sera de mettre en place une imprimerie à Montrouge. 600 personnes sont quand même employées dans cette imprimerie et il va devenir un des plus gros imprimeurs de livres religieux.
Dans cette histoire de l'impression, Jean-Marc Providence, on croise aussi des résistants. Quel a été le rôle des imprimeries clandestines pendant la Seconde Guerre mondiale ?
On a tendance à sous-estimer la place que ça a pris. C'était la seule source d'information d'une presse libre.
Donc il y avait la presse Vichy.
La presse de Vichy, la presse clandestine. Donc on estime aujourd'hui a environ 1600 imprimeurs clandestins. Et au moment de la libération, la presse clandestine pesait aussi lourd que la presse du gouvernement de Vichy. Ça a été tout à fait déterminant pour soutenir les mouvements de résistance et pour donner une information qui ne soit pas complètement sous contrôle.
Et puis donc, on avait parlé d'un écrivain, d'un abbé, de résistant et d'une gosse. La gosse, c'est une marque.
Gosse,
une belle gosse, c'est une marque d'imprime de presse, c'est ça
D'une énorme presse
énorme
rotative.
Presse, 45 tonnes à voir dans votre musée à Malesherbes, dans le Loiret.
Avec... Ouvert tous les jours,
voilà.
Hein, avec des surprises ce week-end.
Avec une petite surprise ce week-end où on va s'intéresser au texte de Barbara et où un jeune chanteur, un musicien de chez Lookwood vont venir faire un peu de lecture et de musique autour de Barbara.
De bons moments à venir. Merci beaucoup Jean-Marc Providence.
Et Barbara, c'est le thème du Confidentiel de Jean-Alphonse Richard sur RTL ce week-end.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.